Nous avons demandé à Monsieur l'abbé Lamarand de faire cette conférence sur Notre-Dame du Mont-Carmel. D'abord parce qu'il aime beaucoup Lourdes et qu'il nous a encouragés dans cette voie d'étude sur Lourdes. Monsieur l'abbé Lamarand vient d'être ordonné et vous lui pardonnerez peut-être quelques timidités. Notre-Dame donc à Lourdes apparaît la 18e fois le 16 juillet à Bernadette sur la rive droite du Gard, donc à l'endroit où vous avez récité. Notre-Dame était dans le rocher, mais Bernadette était sur la rive droite. La raison historique, c'est que l'autorité laïque avait interdit la grotte. Notre-Dame a été silencieuse ce jour-là. Cependant, comme nous l'avons déjà dit, il y a probablement une raison pour que Notre-Dame apparaisse le 16 et non pas le 17 ou le 18 ou le 10. S'il y a une raison, il faut la chercher dans la fête, Notre-Dame du Mont-Carmel. Et c'est à ce titre, donc, que cette conférence vient dans ce congrès marial. Nous croyons que les deux armes que Notre-Dame de Lourdes, après la résurrection de son divin Fils, nous conseille, nous donne à Lourdes, c'est le rosaire, nous l'avons vu hier soir avec le Père Marie-Dominique, et puis le scapulaire et toute la doctrine ou la spiritualité de Notre-Dame du Carmel, du Mont-Carmel.
Excellence, messieurs les abbés, bien chers amis, le Père Petitot, dans son livre « Apparition de Notre-Dame à Bernadette », écrit « Avant que ne fût créé le pèlerinage de Lourdes et qu'on eût pris l'habitude d'appeler la Vierge Notre-Dame de Lourdes, il n'était pas de vocable plus honoré dans toute la chrétienté que celui de Notre-Dame du Mont-Carmel. » On peut en effet constater dans l'Église catholique l'importance de la dévotion au scapulaire et donc de la dévotion à Notre-Dame du Mont-Carmel qui reste pour nous la Vierge du scapulaire. À l'occasion des fêtes du 7e centenaire de l'apparition de Notre-Dame à Saint-Simon-Stock, apparition dont nous parlerons tout à l'heure, qui a eu lieu le 16 juillet 1251, à l'occasion donc de ce 7e centenaire, des fêtes religieuses ont été organisées un peu partout dans toute la chrétienté, du 16 juillet 1950 au 31 juillet 1951. Et parmi ces fêtes, organisées partout, il y a eu un congrès international carmélitain qui s'est tenu à Rome en août 1950. Et le pape Pie XII, à cette occasion, a voulu faire une allocution aux carmes qui étaient réunis là-bas. Je le cite. Il parle du 16 juillet 1251, date mémorable non seulement pour l'ordre du Mont-Carmel et pour tous ses affiliés, mais pour le monde entier. Depuis ce jour, en effet, combien d'âmes ont dû, même en des circonstances humainement désespérées, leur suprême conversion et leur salut éternel au scapulaire dont ils étaient revêtus. La dévotion, continue le pape, la dévotion au scapulaire a fait couler sur le monde un fleuve immense de grâce spirituelle et temporelle. Alors, à l'occasion de ce congrès marial, il nous est bon de scruter ce vocable de Notre-Dame, Notre-Dame du Mont-Carmel. Et pour ce faire, nous verrons d'abord dans une première partie ce qu'est le Mont-Carmel dans l'Écriture sainte et pourquoi le souvenir de Notre-Dame y est attaché. Ensuite, nous examinerons très vite l'histoire de l'ordre du Carmel et nous verrons comment ce vocable a une histoire et ce qu'elle signifie pour l'ordre et pour toute l'Église. Et enfin, dans une troisième partie, nous parlerons du scapulaire, puisque Notre-Dame du Mont-Carmel, c'est Notre-Dame du scapulaire. Qu'est-ce que le Mont-Carmel ? Pourquoi le souvenir de Notre-Dame est attaché à ce lieu géographique de Palestine ? Le Mont-Carmel, c'est d'abord cette belle montagne qui se dresse dans la partie nord d'Israël, au-dessus de la plaine d'Esdrelon, ceux qui connaissent peut-être la Terre Sainte, pour aller se terminer sur la mer. Cette montagne a tenu une grande place dans l'Antiquité et dans l'histoire du peuple élu. Étymologiquement, Carmel vient de Kerem El, en hébreu, qui signifie « vigne de Dieu »,« jardin de Dieu ». C'était un nom commun qui est devenu un nom propre pour désigner cette montagne qui devient, dans l'histoire du peuple élu, la montagne par excellence, le jardin, symbole des grâces et des bénédictions divines. Le Carmel très fertile, symbole des grâces et des bénédictions dont Dieu veut combler son peuple. Nous voyons déjà comment rien que ce nom peut se rapporter à la Sainte Vierge, qui a porté la source de toutes les grâces, notre Seigneur. Et dans l'Écriture, bien souvent, les prophètes citeront le Carmel. Le Cantique des Cantiques dit « Ta tête est belle comme le Carmel ». Nous avons le prophète Jérémie qui rappelle au nom du bon Dieu à Israël, infidèle, les dons que ce peuple avait reçus. « Pourtant, je vous avais conduit au pays du Carmel pour vous rassasier de ses fruits et de ses biens ». Le Mont Carmel, c'est donc ce lieu géographique, célèbre par sa fertilité, symbole des dons et des promesses divines. Le Mont Carmel est aussi célèbre par son histoire. Et là, nous allons rappeler cette histoire qui remonte au IXe siècle avant la venue de notre Seigneur. Le roi Salomon est mort et le peuple élu est divisé en deux royaumes, Israël au nord et Juda au sud. Achab, le roi d'Israël, a épousé Jézabel, fille du roi de Tyr, qui est païenne. Et le roi, sous l'influence de sa femme, eh bien, va se livrer aux pratiques du paganisme, et spécialement au culte du dieu Baal, dieu de la fécondité. Et le roi entraîne le peuple à sa suite, et c'est une grande partie d'Israël qui apostasie. Alors le bon Dieu ne laisse pas son peuple dans la misère, il envoie son prophète Élie, qui annonce un châtiment, 3 ans de sécheresse et de famine. Et ces châtiments ont pour but d'humilier le peuple qui finira par accepter l'ordre d'Élie. Élie dira au roi « Envoie tout Israël près de moi sur le mont Carmel avec les 450 prophètes de Baal qui mangent à la table de Jézabel. » Et Élie va proposer un pacte. Pour prouver qui est le vrai Dieu, les prêtres païens vont offrir un sacrifice. Et Élie, à leur suite, offrira aussi un sacrifice. Le sacrifice qui sera agréé du vrai Dieu sera consumé par le feu qui descendra du ciel. Les prêtres de Baal sont d'accord et ils commencent leur cérémonie, invoquant leur Dieu jusqu'au soir et sans réponse. Élie, ensuite, le soir arrivé, déposera un taureau sur l'autel de bois qu'il fera arroser en abondance par 3 fois. C'est la sécheresse en Israël. 3 fois, Élie fera arroser cet autel. Et Dieu répondra à l'appel d'Élie. Il fera descendre le feu sur la victime. Et alors le peuple, là, devant ce miracle, s'écriera « C'est Yahvé qui est le vrai Dieu ». Le peuple se convertit et sur l'ordre d'Élie, qui n'est pas très œcuménique, eh bien, les prêtres de Baal sont égorgés. Après cette victoire, Élie envoie son serviteur sur le sommet de la montagne. Et il entend le grondement de la pluie qui arrive. C'est Dieu qui répond à son peuple. Le châtiment va cesser. « Monte, dit-il à son serviteur, et regarde du côté de la mer. » Le serviteur ne voit rien. Il y monte 7 fois de suite. Et il finit par déclarer « Voici un nuage, petit comme une trace de pied d'homme qui monte de la mer. » Et enfin, ce nuage apporte la pluie abondante qui vient désaltérer le pays. Dieu a pardonné à son peuple. Voilà l'histoire qu'il nous faut retenir, mais surtout les thèmes que nous rencontrons dans cette histoire. Nous savons que dans l'Ancien Testament, tout est figure de ce qui devait advenir dans le Nouveau. Nous avons un lieu riche et fertile, symbole de la grâce. Le roi et le peuple apostasient. Ils rompent l'alliance que Dieu avait faite, se tournant vers les faux dieux de la fécondité, cherchant les bénédictions là où elles ne sont pas. Et Dieu fait miséricorde en suscitant son prophète. L'alliance est renouvelée, la pluie tombe du ciel, symbole de la grâce qui est rendue. Il y aurait là bien des choses à développer. Nous nous arrêterons seulement à ce qui touche notre sujet aujourd'hui, c'est-à-dire le symbolisme de cette petite nuée. Toute la tradition a appliqué cette nuée à la Sainte Vierge. Cette nuée apparaît dans le ciel, Notre-Dame est envoyée par le bon Dieu. Elle monte de la mer parce que Notre-Dame est une créature. Elle porte la pluie parce qu'elle apporte notre Seigneur la source de tous les biens. Nous voyons déjà que le Carmel annonce la nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance qui se fera par l'incarnation du Verbe. Et qui porte le Verbe? Qui l'apporte aux hommes? Notre-Dame. Et la liturgie du 16 juillet, dans la préface de la messe, dit qu'il est bon de rendre gloire à Dieu qui a révélé au bienheureux prophète Élie, au moyen d'un léger nuage se levant de la mer, l'Immaculée Vierge Marie. L'épître de cette messe, c'est ce passage où le serviteur voit arriver le petit nuage. Les pères de l'Église abonderont dans ce symbolisme de la nuée. Je citerai simplement Saint Procluse de Constantinople en 446, « La Sainte Mère de Dieu et Vierge Marie est cette nuée légère qui porta incorporé celui qui siège sur les chérubins. » Chrysippe de Jérusalem au 5e siècle, « Salut nuages de la pluie qui donne leur breuvage aux âmes des saints. » Voilà, toute la tradition applique cette petite nuée à la Sainte Vierge. Et les carmes ont toujours vu dans cette petite nuée l'origine de leur dévotion mariale. Ils sont les fils de celle que le prophète Élie a connue par la vision de la nuée. C'est ce que rapporte l'institution des premiers moines, un livre qui aurait été composé en 412, qui en fait très vraisemblablement date du XIIIe siècle, mais qui pourtant rapporte des traditions antiques de l'ordre. Élie, pendant que son serviteur montait sur la montagne, était prosterné en prière, et là il a eu cette révélation, la nuée annonce l'Immaculée, celle qui apportera le Sauveur au monde. Alors, le symbolisme du Mont Carmel dans l'Écriture, c'est qu'en pleine apostasie d'Israël, au moment où tout semblait perdu, Dieu intervient en se servant du prophète Élie, du petit reste demeuré fidèle, et renouvelle l'alliance. Il annonce une alliance définitive, et cette alliance se fera par Marie, dont Guéranger, dans l'année liturgique, dit que l'éternelle sagesse avait choisi le Carmel pour être, au siècle des figures, donc dans l'Ancien Testament, l'apanage anticipé de la fille d'Ève qui briserait la tête de l'antique ennemi. Le Mont Carmel, c'est donc la terre de l'espérance du salut qui vient, espérance annoncée dans la nuée, attendue par les fils des prophètes. C'est Marie, annoncée et attendue comme médiatrice du salut. Voilà ce qu'est le Mont Carmel. Le Carmel, c'est aussi un ordre religieux. Nous allons quelque peu survoler l'histoire de cet ordre et voir comment le vocable de Notre-Dame du Mont Carmel va apparaître et comment ce vocable est riche de signification. L'ordre du Mont Carmel a toujours voulu chercher ses origines dans les temps bibliques, nous l'avons vu. Nous voyons comment donc le Mont Carmel annonce Notre-Dame, et les traditions du Carmel nous rapportent ce souvenir de Marie qui s'est perpétué sur le Mont Carmel. La vie religieuse, en effet, s'est continuée après Élie, Élisée, et les fils des prophètes, cette école de prophètes qui se tenait sur le Mont Carmel, attendaient la venue de celle dont Élie avait eu la révélation. Au Moyen-Âge, le Chartreux d'Orlandus, dans sa vie de Sainte-Anne, rapporte la visite de Marie enfant avec Sainte-Anne sur le Mont Carmel. Bostius, en 1479, un carme, écrit le « Du patronat de Notre-Dame ». Et là, il a des considérations sur ses visites de Notre-Dame, des visites de Notre-Dame après la Pentecôte. et la construction par les ermites du Mont Carmel d'une chapelle en l'honneur de Notre-Dame après son Assomption. Les historiens se disputent, que faut-il penser de ces traditions ? Très vraisemblablement, elles ont un fond de vérité, car les auteurs du Moyen-Âge recopiaient des documents authentiques. La visite de Notre-Dame au Mont Carmel est rapportée par saint Cyrille d'Alexandrie. Elles ont peut-être, donc, ces histoires été embellies, elles ont certainement un fond de vérité. Ce qu'il faut retenir, c'est que leurs auteurs voulaient transmettre au Moyen-Âge l'origine foncièrement mariale du Carmel, l'esprit marial de cet ordre. Au XIIe siècle, c'est l'époque des croisades, la délivrance de Jérusalem, la fondation du royaume latin de Jérusalem en 1099. Des latins, des occidentaux, donc, viennent en Terre Sainte et s'installent sur le Mont Carmel, se joignant aux ermites orientaux. Et là, ils vont petit à petit donner une forme occidentale à cette vie religieuse qui était un peu précaire. Et ils seront approuvés par le pape Calixte II. Une règle sera donnée par le patriarche de Jérusalem, saint Albert, et l'ordre va s'étendre petit à petit en Chypre, en Sicile. Le chanoine Henri Pelletier, dans son Histoire du Carmel, dit que le Carmel est le sanctuaire béni de la Mère de Dieu, d'où son culte rayonnait dans tout l'Orient. Une chose qui est importante, une chronique de l'époque, en 1220, fait mention de la construction par les ermites du Mont Carmel d'une église dédiée à Notre-Dame. À cette époque, consacrer une église à un saint ou à une sainte, c'était se consacrer à ce saint ou à cette sainte. Et il y a là, donc, dans cette construction de l'église, la volonté d'une consécration mariale. Donc toujours ce signe de Marie attaché au Carmel. Le 5 avril 1227, un bref de Grégoire IX nommera les ermites qui se tiennent sur le Mont Carmel, les ermites de Sainte Marie du Mont Carmel. Toujours référence à Notre-Dame. En Orient arrive à cette époque la persécution musulmane et l'ordre va être contraint de passer en Occident. Un récit de l'époque raconte que la Sainte Vierge apparut au supérieur de l'ordre pour conseiller ce passage, ce qui va sauver l'ordre en effet, car en 1291, les derniers carmes demeurant sur le Mont Carmel seront massacrés. Un autre récit, qui se trouve dans la liturgie de l'époque, dit que Notre-Dame serait apparue à Honorius II, le pape de l'époque, pour l'enjoindre à bien accueillir ce nouvel ordre qui va arriver en Occident. Et donc, en 1235, l'ordre quitte le Mont Carmel, débarque en Occident, où il devient un ordre mendiant. Simon Stock est élu général de l'ordre en Angleterre, et là, il doit faire face à de nombreuses difficultés. Les franciscains, les dominicains existent déjà. Ça fait beaucoup de religieux mendiants pour le peuple et pour les autorités. L'ordre a ses coutumes spéciales. Il vient d'Orient. Il a un habit bizarre, un manteau blanc barré de noir, et les gens se demandent, mais qui sont ces nouveaux religieux ? Et face à cela, saint Simon Stock va vouloir adapter un peu la règle. Et c'est au sein même de l'ordre que vont se trouver des divergences, des difficultés. On parle de dégénérescence. Le supérieur général adoucit la règle. L'ordre est menacé dans son existence même. Et alors il va se produire quelque chose, c'est la nécessité d'un retour aux sources. Pour se préserver du péril qui guette l'ordre, les carmes vont devoir préciser les titres auxquels ils appartiennent. Ils vivaient leur vocation, mais là, ils vont préciser leur titre. Et c'est la première fois qu'apparaît en Occident leur titre « Frère de la Bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel ». Volonté pour cet ordre qui arrive en Occident de dire qui il est. Frère de la Bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel. Leur origine, c'est donc Élie et Notre-Dame. Et alors, à ce moment critique de l'ordre, eh bien, nous allons avoir l'intervention de Notre-Dame, et c'est là le plus important. Je vous livre le récit le plus ancien qui existe sur cette apparition de Notre-Dame. Souvent, saint Simon Stock, dit le récit, suppliait la glorieuse Vierge Marie, Mère de Dieu et patronne de l'ordre, de doter de quelques privilèges les frères qui portent son nom. Chaque jour, d'une voix très dévote, il lui disait en ses prières, « Fleur du Carmel, vigne fleurie, splendeur du ciel, Vierge Mère unique, douce Mère qui ne connut point d'homme, aux enfants du Carmel, donne tes privilèges, étoile de la mer. » Et un jour, Tandis qu'il récitait dévotement cette prière, la glorieuse Vierge Marie, Mère de Dieu, lui apparut accompagnée d'une multitude d'anges, et tenant en sa main le scapulaire de l'ordre, elle lui dit « Voici le privilège que je te donne à toi et à tous les enfants du Carmel, quiconque meurt revêtu de cet habit sera sauvé. » Intervention de Notre-Dame au moment où tout semble perdu pour l'ordre. Et là, Saint-Simon Stock va se sentir plein de courage. Il fera face à toutes les difficultés qui vont se mettre sur son chemin et l'ordre va se développer. L'ordre sera consolidé dans ses fondations et il va s'étendre. Et là, dans les décennies qui suivent, les fondations vont se succéder. Nous avons donc l'intervention de Notre-Dame qui vient sauver son ordre. Comme la nuée au Mont Carmel était porteuse de la pluie salvatrice, Marie est pour son ordre porteuse de salut. Et on voit se profiler le sens de ce vocable. Qui est Notre-Dame du Mont Carmel? Elle est celle qui sauve à l'heure où tout semble perdu. Et nous allons continuer à le voir dans l'histoire de l'ordre. Le 17 juillet 1274, c'est le deuxième concile de Lyon. Approbation des franciscains, des dominicains, refus d'approuver les carmes. Nouvelle difficulté. En 1298, le pape Boniface VIII, après certainement beaucoup d'insistance de la part de l'ordre, va modifier les textes du concile de Lyon et approuvera les carmes, ce qui fait qu'on pensera dans l'histoire que les carmes ont été approuvés dès le deuxième concile de Lyon, en 1274, nouvelle victoire que les carmes attribuent à Notre-Dame. Autre événement qui va montrer la maternelle bonté de Notre-Dame pour son ordre, c'est la vision que rapporte la tradition de Notre-Dame au futur pape Jean XXII pendant le conclave. Je vous lis le texte de cette vision, texte qui a été rapporté 100 ans après cette vision. Le pape Jean XXII, profondément angoissé en son âme et en but en même temps à la tribulation extérieure, plaçait avant tout sa confiance dans la glorieuse Vierge Marie, Mère de Dieu. Un certain jour, avant son élection, tandis qu'il était plongé dans la prière et implorait dévotement le secours de Marie, cette bienheureuse et toujours Vierge Mère de Dieu lui apparut, revêtue du costume de l'ordre des Carmes, et lui tint ce langage. « Ô Jean, Jean, vicaire de mon Fils, vois donc comme moi je t'ai obtenu cette grâce magnifique, pour que tu la payes à mon ordre, à mes frères choisis, et que tu confirmes la règle que commencèrent à vivre Élie et Élisée au Mont Carmel, et que composa mon serviteur le patriarche Albert. » Et comme innocent vicaire de mon fils et ton prédécesseur, leur imposa cette règle pour la rémission de leurs péchés. De même, donneras-tu à mon ordre, en mon nom et au nom de mon fils, ce privilège. Que quiconque entrera en cet ordre et observera dévotement ce genre de vie sera sauvé éternellement et délivré de la peine et de la culpe. Et si, au jour de leur passage en l'autre vie, ils sont amenés au purgatoire, moi, la Mère de Grâce, je descendrai le samedi au purgatoire après leur mort, et je délivrerai ceux que j'y trouverai, et les ramènerai à la montagne sainte, allusion au Carmel, et à la vie éternelle. Voilà. Deuxième privilège que Notre-Dame apporte à son ordre. Alors, ce privilège sera rapporté dans la bulle qu'on appelle la bulle sabbatine par le pape Jean XXII, le 3 mars 1317, la bulle Sacratissimo Culmine. Bon, cette bulle est transcrite dans une autre bulle de Sixte IV, fin du XVe siècle. Que faut-il penser de l'authenticité de cette vision, de l'authenticité de cette bulle? C'est la controverse depuis des siècles. Des historiens pensent que c'est authentique, d'autres disent que non. Ce n'est pas le lieu ici de développer ce problème. Quoi qu'il en soit, sur ce privilège sabbatin, sur cette apparition, le privilège lui-même a reçu les approbations de nombreux papes. Et même si la bulle rapportait une vision au sens où le père Marie-Dominique nous le disait hier, voir c'est aussi à cette époque comprendre une inspiration qui est donnée par le bon Dieu, eh bien le privilège lui-même est approuvé par tous les papes. Donc la querelle historique, je dirais pour nous, importe peu. Le privilège est approuvé par Clément VII, 1534, dans la bulle Ex Clementi Sedis Apostolice, par Paul III, par Saint-Pie V, par Paul V, par Benoît XIV, etc., etc., etc. Nombreux papes ont approuvé ce privilège. Alors la vision, qu'est-ce qu'il en est de cette vision? Peu importe, le privilège sabbatin existe, il est confirmé par le magistère de l'Église, pour nous, c'est ce qui compte. Autre événement dans l'histoire de l'ordre, donc nous voyons un petit peu ces événements, hein. Donc l'apparition à Saint-Simon Stock, ensuite cette reconnaissance de l'ordre en 1274, ensuite la vision avec la bulle sabbatine, 1374 maintenant, nouvelle épreuve pour l'ordre à Cambridge, en Angleterre, grand débat. Les opposants des Carmes veulent leur dénier le titre de frère de la Vierge. Alors là, c'est une grande disputatio, on va débattre. Est-ce que l'ordre de la Vierge revient, ce titre ordre de la Vierge revient-il au Carmel? Et l'université finira par reconnaître. Le sus dit ordre de la bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel est confirmé par le droit commun et le titre de la glorieuse Vierge de la bienheureuse Le titre de la glorieuse Vierge, pardon, la bienheureuse Vierge Marie, lui revient d'une manière spéciale. 1374, 100 ans après 1274, les Carmes, tout de suite, disent « Nouveau signe de Notre-Dame, de son intercession ». Alors, dans l'ordre, face à tous ces périls, auxquels la Sainte Vierge répond par des bienfaits, va naître le désir de remercier le bon Dieu par une fête. Et déjà à cette époque, on célébrait Notre-Dame, l'ordre du Carmel bien sûr, mais il n'y avait pas de fête patronale. L'ordre, selon la région, célébrait une grande fête patronale, mais c'était l'Immaculée Conception. En Angleterre, c'était l'Assomption. C'était différent selon les régions. Petit à petit, l'histoire ne s'est pas bien fixée quand, mais le choix de la date va se faire pour le 17 juillet, en souvenir du 17 juillet 1274, l'approbation de l'ordre. Souvenir d'une fête, fête en souvenir de ces bienfaits que Notre-Dame accorde à l'ordre. Et il est intéressant de noter que cette fête n'est pas la fête du scapulaire. Ce que l'ordre retient, c'est que Notre-Dame, plusieurs fois, a sauvé son ordre. Dans l'histoire, très vite, au XVIe siècle, pour une raison que nous ignorons, la fête du 17 juillet va passer au 16 juillet. Et très vite, on fera l'amalgame avec le scapulaire. Et cette fête deviendra la fête du scapulaire, la fête de l'habit. Mais historiquement, à l'origine, c'est une fête qui veut commémorer solennellement l'œuvre de Notre-Dame pour son ordre. Et donc, le vocable de Notre-Dame du Mont Carmel est essentiellement celle qui intervient dans les difficultés, dans les périls. Et le scapulaire est le signe, le symbole de cette intervention de Marie. Donc, Notre-Dame du Mont Carmel n'est pas d'abord la Vierge du scapulaire. Elle est celle qui intervient à l'heure où tout semble perdu. Arnold Bostius, que j'ai cité tout à l'heure, qui est un carme de Gand en Belgique, le plus célèbre des écrivains carmes du XVe siècle, qui a écrit donc son « Du patronat de Notre-Dame », il déclare que le scapulaire a été donné par la Sainte Vierge non seulement pour les carmes, mais pour tous les fidèles chrétiens. Et de fait, nous assistons en deux siècles à un prodigieux développement du scapulaire. Fin du XVIe siècle, l'Espagne et le Portugal, dit le père Élisée de la Nativité, dans son livre « Le scapulaire du Carmel », il dit que l'Espagne et le Portugal sont un immense Carmel où tous portent le scapulaire. Henri IV avait reçu le scapulaire à sa naissance et il l'a porté toute sa vie, même à la tête des armées protestantes. Et certainement, c'est à son scapulaire qu'Henri IV a dû sa conversion. Et il fondera, en l'honneur de Notre-Dame du Mont Carmel, un ordre de chevalerie. Au XVIIIe siècle, en France, le scapulaire est répandu dans toute la société. Comment s'est réalisé cet essor? Eh bien, tout d'abord, des bienfaiteurs affiliés à l'ordre, qui portent sous leurs habits laïcs le scapulaire. Divers nobles du royaume d'Angleterre, puisque Saint-Simon Stock était là-bas, le bienheureux Édouard II, roi d'Angleterre, qui fondera d'ailleurs une maison des Carmes à Oxford. Et en 1524, va se constituer la confrérie de Notre-Dame du Mont-Carmel, qui substantiellement est toujours restée la même. C'est-à-dire que deux prêtres, carmes, obtiennent du pape Clément VII deux bulles prévoyant deux manières d'entrer dans la confrérie. Et donc, possibilité pour les laïcs, pour les fidèles, de se joindre à un tiers-ordre, à une confrérie, et donc d'être unis spirituellement à l'ordre du Carmel. Et en 1530, donc ce que je disais tout à l'heure, une constitution apostolique du pape Clément VII qui confirmera le privilège sabbatin. Et ensuite, en 1570, eh bien, le prieur général mentionnera les conditions pour gagner l'indulgence sabbatine, dont nous parlerons tout à l'heure. Mais donc nous voyons très vite, en fait, cet essor du scapulaire qui est né dans le Carmel et qui se répand dans toute l'Église. Bien sûr, le protestantisme va favoriser cet essor. Toujours le père Élisée de la Nativité qui dit que l'instinct catholique et populaire se révolta à la pensée d'une religion dont serait absente cette confiance filiale et continuellement exprimée envers Marie. Le scapulaire était le signe de ralliement le plus commode. Avec le rosaire, le scapulaire devint la grande dévotion populaire de l'Église. On pensait qu'à la manière des combattants de l'époque, on allait en guerre contre l'enfer, armé d'un bouclier, le scapulaire, et d'une arme offensive, le rosaire. Au XVIe siècle, 300 confréries en Italie, 500 000 personnes portent le scapulaire. En 1951, à Séville, à l'occasion du 7e centenaire, 50 000 inscriptions. À Fatima, plus de 100 000 scapulaires seront imposés à l'occasion de ces fêtes. À Lourdes, bien avant, au 4e centenaire de l'apparition de 1251, donc en 1651, on voit s'ériger la confrérie du scapulaire en l'église paroissiale. Et elle devient très vite la confrérie la plus célèbre dans toute la région. Et Sainte Bernadette, le 3 juin 1858, reçoit le scapulaire, jour de sa première communion. Nous voyons donc, après ce rapide survol sur l'histoire du Carmel, que nous pouvons extraire, faire ressortir l'enseignement suivant, celui d'un ordre religieux, qui a ses origines profondes sur le mont Carmel, où Marie avait été annoncée comme médiatrice du salut. Cet ordre, face au péril qui le guette, expérimente la bienfaisante intervention de Notre-Dame, intervention dont le scapulaire est le signe et le symbole. Ce que cet ordre a vécu, l'Église entière est invitée à le vivre aussi. Et le père Joseph de Sainte-Marie, dans ce livre « La Vierge du Mont Carmel », qui est en vente au stand, le père Joseph de Sainte-Marie a cette très belle conclusion. Je le cite. « En sauvant l'ordre du Carmel, qui est sa famille, la Vierge montre comment elle répond à ceux qui se consacrent à elle. Et le geste qu'elle veut faire pour le Carmel est un gage de ce qu'elle veut faire pour l'Église et pour tous les chrétiens. Le scapulaire en est le signe, le recevoir en effet c'est se consacrer à Marie et le porter fidèlement c'est vivre cette consécration. Ce que la Vierge a fait pour le Carmel, elle veut le faire pour tous ses enfants. Et elle a voulu se servir de son ordre pour répandre dans le peuple chrétien cette vérité qu'elle est le salut à l'heure où tout semble perdu. » Et là, je dirais, nous sommes au cœur de la signification du vocable de Notre-Dame du Mont Carmel. Annoncée, figurée par la nuée, elle est celle qui sauve l'ordre dans les périls, elle est celle qui veut nous sauver par son scapulaire. Alors maintenant, eh bien, voyons ce qu'est le scapulaire, son origine, nous l'avons vu, la vision de Saint-Simon Stock, mais surtout sa signification, ce à quoi il nous engage. Un père carme dit que le saint scapulaire est doté d'une signification spirituelle très riche. Cette signification s'appuie sur des principes théologiques sûrs dans le domaine de la participation de Marie à l'œuvre de la grâce réalisée par les mérites de son divin Fils. Il est le signe que Marie est l'associée du Christ, comme disait M. l'abbé de Jornat tout à l'heure, l'associée du Christ. Nous sommes sauvés par les mérites de notre Seigneur et de Notre-Dame. Marie est liée à la rédemption, elle est co-rédemptrice, elle est médiatrice, et le scapulaire en est le signe. Alors qu'est-ce que le scapulaire? Eh bien, c'est une vérité peut-être banale, mais il est bon de la rappeler. Le scapulaire est d'abord un vêtement. Tout scapulaire, quel qu'il soit, est une longue pièce d'étoffe passée sur les épaules et descendant sur le dos et la poitrine. Chez les bénédictins, c'était un vêtement de travail qui devient peu à peu le symbole du moine travailleur. Et peu à peu, ce scapulaire va s'étendre aux tiers ordres. On le réduira pour les laïcs et il deviendra le scapulaire que nous connaissons, ces deux petites pièces d'étoffe reliées par deux petites bandelettes. Le sens profond du scapulaire du Carmel, c'est que c'est un vêtement tissé en quelque sorte par la Vierge Marie, jeté par elle sur nos épaules comme une protection et un signe d'appartenance. Notre-Dame continue à notre égard ce qu'elle fit pour l'enfant Jésus, comme dit l'Évangile, l'enveloppant de l'ange et le couchant dans une mangeoire. Et dans toute la tradition carmélitaine, le scapulaire est l'habit de la Vierge. Et c'est si vrai que, au XVIe siècle, cette fête patronale du 16 juillet sera appelée fête de l'habit, fête du scapulaire. Ce vêtement est une protection, et c'est le caractère essentiel de tout vêtement humain, dont le but est de protéger contre les intempéries, contre le froid ou contre la chaleur. On retrouve cet aspect dans le scapulaire, bien sûr, à un niveau spirituel. À ce vêtement est attachée la promesse de Notre-Dame. « Voici le privilège que je te donne à toi et à tous les enfants du Carmel. Quiconque meurt revêtu de cet habit ne souffrira pas des feux éternels. » Et là, il est intéressant de bien distinguer les deux privilèges. Pour recevoir cette promesse, son fruit, il y a deux privilèges. Premier privilège, être préservé des feux de l'enfer. L'apparition du 16 juillet 1251. Quelles sont les conditions? Avoir reçu le scapulaire, le porter, en être revêtu au moment de la mort. Il n'y a pas d'autres conditions attachées au scapulaire pour recevoir le fruit de cette première promesse. C'est très important. Et nous avons le deuxième privilège, qui est le privilège sabbatin, où là, nous avons les trois conditions. Avoir reçu le scapulaire et bien sûr mourir en étant revêtu. Avoir gardé la chasteté selon son état, depuis l'instant où on est revêtu de ce scapulaire jusqu'à sa mort. Et avoir dit tous les jours l'office de la Sainte Vierge, et pour ceux qui ne savent pas lire, eh bien, observer les jeûnes de l'Église et faire abstinence le mercredi et le samedi. Ces œuvres ont été commuées par l'Église en un chapelet. Tout prêtre peut commuer ses œuvres, selon la possibilité de celui qui est revêtu du scapulaire, bien sûr. Mais donc, il faut bien distinguer ces deux privilèges. La tradition, très vite, a retenu celui qui meurt revêtu du scapulaire et délivré le premier samedi après sa mort du purgatoire. Oui, c'est vrai, à condition qu'il ait accompli les trois conditions du privilège sabbatin. Ça, c'est le privilège sabbatin. Mais le premier privilège du scapulaire, c'est ne pas aller en enfer. Et quelqu'un qui mourrait revêtu du scapulaire sans avoir observé les trois conditions du privilège sabbatin peut bien sûr recevoir le fruit du premier privilège, être préservé de l'enfer. Marie conduite à Jésus et recevoir son habit, le porter, c'est se laisser recouvrir par sa maternelle protection. Nous avons le chanoine Savary en 1898 qui dit « Oui, le scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel est le chef-d'œuvre d'amour de la très sainte Vierge pour les hommes. C'est le touchant mystère de sa puissante intervention dans l'application des mérites infinis de son divin Fils. » Alors, ce privilège d'être préservé de l'enfer en portant un petit morceau d'étoffe sur soi, ça pourrait nous laisser croire que c'est gagner le ciel à bien peu de frais. Et il y a eu dans l'Église, c'est vrai, toute une querelle. Est-ce que la promesse de la Sainte Vierge s'applique à celui qui meurt revêtu du scapulaire, point à la ligne, j'ai envie de dire, ou est-ce qu'il faut le porter pieusement? C'est-à-dire quelqu'un qui porterait le scapulaire et qui mourrait en pécheur, serait-il délivré de l'enfer? Il est évident que le scapulaire n'est pas un talisman. Le scapulaire reste un sacramental, un objet béni qui est porteur de grâce dans la mesure des dispositions de l'âme. Cependant, le bienheureux Claude de la Colombière dit que la promesse que fait Marie de protéger les confrères du scapulaire ne renferme aucune condition. La Sainte Vierge s'est engagée à ne point souffrir qu'ils soient éternellement malheureux, c'est-à-dire qu'elle leur donne toutes les assurances du salut que l'on peut avoir en cette vie. Mais enfin, est-ce que le pécheur qui veut mourir en pécheur mourra revêtu de son scapulaire? Je cite ce bienheureux Claude de la Colombière. « Mais enfin, si nonobstant toutes les grâces que Dieu veut me donner, je m'obstine à ne point changer de vie, si je ferme les yeux à tant de lumière, si de plein gré je me livre moi-même à mon ennemi, en un mot, je veux mourir dans mon péché. Vous y mourrez, répond le bienheureux, car Dieu même, dit saint Augustin, ne peut forcer une volonté mauvaise et déterminée à se perdre. Oui, vous mourrez dans l'impénitence, vous mourrez dans votre péché, mais vous ne mourrez pas avec votre scapulaire. Si Marie ne peut vous retirer de vos désordres, elle trouvera bien moyen de vous arracher sa livrée. Vous-même, oui, vous-même, vous vous dépouillerez de ce saint habit plutôt que d'y mourir en réprouvé. » Le scapulaire est donc une protection, protection contre le plus grand danger qui nous menace, celui de perdre notre âme. Le scapulaire est une appartenance. L'homme a toujours chargé le vêtement d'une signification symbolique. Le vêtement a toujours été un langage, les ornements sacerdotaux, les vêtements des fonctionnaires publics. Le vêtement veut dire quelque chose. Eh bien, le scapulaire, disait Pie XII, est une sorte d'habit marial. Nous sommes, par ce petit scapulaire que nous portons, les familiers de Notre-Dame. Sainte Thérèse d'Avila, qui se réjouissait du retour à son époque à la règle primitive, dit que les couvents se fondent pour la gloire et la louange du Seigneur et pour celle de la glorieuse Vierge Marie dont nous portons l'habit. Le scapulaire du Mont Carmel est la signification d'une consécration mariale. Le scapulaire est un vêtement, le scapulaire est une protection, le scapulaire est une appartenance. Le scapulaire est un vêtement spirituel. Il faut bien se garder de faire du scapulaire, comme je disais tout à l'heure, un talisman. Ce n'est pas cela. Le scapulaire se place dans tout l'ensemble de la vie chrétienne. Saint Paul dit que baptisé dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Revêtez l'homme nouveau, revêtez-vous du Seigneur. Et cela se fait par la vie surnaturelle de foi, d'espérance, de charité reçue au baptême. Le chrétien, c'est un autre Christ. Eh bien, le scapulaire ne nous rappelle pas seulement cette nécessité de nous conformer à Jésus-Christ. Il nous fait une obligation de nous revêtir de Marie. Et ceci se fonde sur la médiation de Notre-Dame. Dieu a voulu que nous n'eussions rien qui ne passât par les mains de Marie, dit saint Bernard. Est-il possible de ressembler à Jésus sans avoir quelque chose de sa mère ? Le chrétien, image de Jésus, doit devenir aussi une réplique de Marie à mesure que la grâce s'épanouit dans son âme. Et le scapulaire du Mont Carmel est bien, par son histoire, ce mémorial de l'Alliance, comme le dit le Père Joseph de Sainte-Marie, symbole et moyen d'une consécration à Marie qui nous conduit à une plus parfaite consécration à Jésus-Christ. Et là, il y aurait un beau parallélisme à faire au niveau symbolique. Entre la robe baptismale que nous recevons le jour de notre baptême et l'habit de Notre-Dame du Mont Carmel, qui n'est pas un scapulaire comme un autre. Le chrétien vient au monde par Marie. Il est baptisé enfant de Dieu et son baptême est une grâce mariale qui le fait enfant de Dieu et enfant de Marie. Et il y avait une belle tradition dans l'Église qu'il serait peut-être beau de reprendre, c'est d'imposer le scapulaire au jour du baptême. Certes, la signification reste au plan symbolique. Le baptême accomplit une œuvre de grâce surnaturelle, sacramentelle, qui change l'âme du nouveau baptisé, qui la transforme, qui l'imprime, qui lui imprime un caractère. Le scapulaire n'a pas une efficacité à ce niveau. Mais il serait ce symbole de ce qui se passe réellement au baptême. Le baptisé, enfant de Dieu, enfant de Marie. Et le scapulaire serait ce signe. Et pendant toute une période dans l'Église, très longtemps, on imposait le scapulaire dès la naissance. Un confrère, dernièrement, d'ailleurs, m'avait envoyé la photocopie de son acte de réception du scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel le jour de son baptême. Et c'est lui qui me disait, « Eh bien, ce serait bien d'en parler dans votre conférence pour qu'on reprenne cette tradition dans l'Église, dans la tradition. » Bien à plaindre donc celui qui mépriserait ce signe de Marie. Alors il nous faut être un peu pratique. Comment porter ce scapulaire? Quelques notions pratiques et ensuite je terminerai par une ou deux histoires qui nous montrent la grande bienfaisance de ce scapulaire. Eh bien, le scapulaire, d'abord, doit être béni. Le scapulaire doit être béni. Tout prêtre a le pouvoir de bénir le scapulaire. Le premier scapulaire qui est imposé doit être béni. Les autres scapulaires, quand on le change, n'ont pas besoin de l'être. Ce qui compte, c'est la bénédiction. Ce scapulaire doit être imposé par un prêtre selon la formule rituelle de l'Église. Mais on a vu bien des dispenses. Par exemple, les soldats qui n'ont pas de prêtre à leur disposition peuvent s'imposer eux-mêmes le scapulaire béni à l'avance tout en récitant quelques prières de la Sainte Vierge. Celui qui, par irréligion ou mépris, aurait cessé de porter son scapulaire devrait se le refaire imposer. Mais celui qui l'a abandonné par négligence, par oubli simplement, eh bien, peut très bien le reprendre sans refaire l'imposition. Il faut normalement être reçu dans la confrérie du Mont-Carmel, mais très vite l'Église a donné des dispenses et s'il y a un inconvénient, il n'est pas nécessaire d'être inscrit. La matière du scapulaire, c'est de la laine tissée, et ce scapulaire est relié par deux cordons. La couleur doit être tannée, brune, quelque chose de semblable ou bien noir. Un scapulaire du Mont-Carmel qui serait blanc ne serait pas un scapulaire du Mont-Carmel. Il faut que ce soit la réduction, la diminution de l'habit que portent les carmes. C'est pour cela que l'Église a toujours insisté sur la matière du scapulaire, de la laine tissée. La manière de la porter, le scapulaire doit être porté d'une façon qu'une partie pende sur la poitrine et l'autre sur le dos. On peut ne pas le porter directement sur la peau, on peut le porter au-dessus des habits. Voilà quelques petits détails qui peuvent éclairer. Mais il faut rappeler que porter son scapulaire dans son porte-monnaie ou dans sa poche, ça ne marche pas. Simplement. C'est un habit et donc il faut le porter sur soi. Il y a la médaille du scapulaire. Que faut-il dire de la médaille du scapulaire? C'est le pape Saint-Pédis qui accorde par un décret du Saint-Office le 16 décembre 1910, la dispense de remplacer le scapulaire par une médaille et qui fixe les conditions et les modalités. En fait, la volonté du Saint-Pape Pédis était de promouvoir la dévotion au scapulaire et il a demandé que si l'on n'a pas de raison de porter la médaille, de continuer à porter le scapulaire. Beaucoup de fidèles pensent que la médaille du scapulaire a la même valeur, mais c'est une erreur. La médaille reste une dispense. Bien sûr, on peut la porter, même sans raison. Cependant, il est mieux de porter la médaille. Et on gagne les mêmes privilèges. Cependant, toute nouvelle médaille doit être bénite. Il faut remarquer qu'on n'a, à ma connaissance, pas de miracle obtenu avec la médaille. À ma connaissance, peut-être que... Je serais heureux, bien sûr, de savoir si quelqu'un connaissait une histoire, mais à ma connaissance, il n'y en a pas. Donc, il est mieux, beaucoup plus symbolique, et c'était d'ailleurs le désir du Saint-Pape, qui disait qu'il désirait vivement, vehementer optat, que les fidèles continuent à porter le scapulaire de la manière qu'ils l'ont porté jusqu'à maintenant. Donc, l'esprit de l'Église, c'est de porter le scapulaire tel qu'il est. Je terminerai cette conférence. Le temps passe, et... Je terminerai avec une histoire, tout simplement, qui nous montre comment Notre-Dame peut l'impossible. Le bienheureux Alphonse de Ligorie raconte l'histoire suivante. Un prêtre, mon compagnon, était dans une église occupée à entendre les confessions. Il voit entrer un jeune homme. Quoiqu'il n'eût donné en entrant aucun signe de piété, son air annonçait qu'il se livrait dans son âme un combat dont le missionnaire crut avoir deviné le principe. Aussi, quittant le saint tribunal et s'approchant du jeune homme, « Mon ami, lui dit-il, voulez-vous vous confesser ? » Celui-ci lui répondit que oui, mais que sa confession devant être un peu longue, il voudrait aller un peu à l'écart. Lorsqu'ils furent seuls, le jeune homme lui parla en ces termes, « Mon père, je suis un étranger, mais je ne puis me persuader que je devienne jamais l'objet des miséricordes d'un Dieu que j'ai tant offensé par une vie aussi criminelle que la mienne. Sans vous parler des meurtres et des infamies de tout genre dont je suis coupable, je vous dirai que désespérant tout à fait de mon salut, Je me livrais au crime, moins pour contenter mes passions que pour outrager Dieu et assouvir la haine que je lui portais. J'avais sur moi un crucifix, je l'ai rejeté par mépris. Ce matin même, j'ai horreur de le dire, je suis allé à la Sainte Table pour commettre un sacrilège. Mon intention était de fouler aux pieds la Sainte Hostie, et j'allais en effet exécuter cet horrible dessein. La présence seule des personnes qui m'environnaient m'a retenu, et dans le moment même, il remit à son confesseur la Sainte Hostie, qu'il avait conservée dans un papier. En passant devant cette église, ajouta-t-il, je me suis senti pressé d'entrer, au point que je n'ai pu résister à ce mouvement intérieur. Et aussitôt de violents remords de conscience se sont élevés dans mon âme, avec la pensée, quoique bien vague, encore de me confesser. J'approchais cependant du confessionnal, mais la confusion que j'éprouvais et ma défiance de la miséricorde de Dieu étaient si grandes que j'ai été sur le point de sortir, et je l'aurais fait, si je ne m'étais senti retenu, je ne sais par quelle main invisible. Là-dessus, mon père, vous vous êtes avancé vers moi, je suis à vos genoux, je me confesse. Je ne puis vraiment revenir de tout ceci. Son confesseur alors se mit à lui demander s'il avait fait quelque bonne œuvre depuis peu, ou recouru à quelque pratique de piété qui lui eût obtenu tant de grâce. Peut-être, lui dit-il, que vous avez fait quelque sacrifice en l'honneur de la Sainte Vierge, ou imploré son assistance, car de telles conversions ne sont pour l'ordinaire que des effets de la puissance de cette bonne mère. Moi, des sacrifices, des pratiques de piété, lui répliqua vivement le jeune homme. Ô mon père, combien vous vous trompez, je me croyais déjà dans l'enfer. Puis portant la main sur sa poitrine qu'il découvre, tenez, voilà tout ce que j'ai conservé, et il lui montre son scapulaire. Ah, mon fils, s'écria le prêtre attendri, ne le voyez-vous pas, c'est la Sainte Vierge qui vous a obtenu cette grâce. Sachez de plus que dans cette église dans laquelle vous êtes entré, cette église est consacrée à notre bonne mère. À ces mots, le jeune homme fond en larmes et pousse de longs soupirs, ce fut le coup de la grâce. Il entre dans les détails de sa vie criminelle, et sa douleur allant toujours croissant, il tombe évanoui aux pieds de son confesseur. Mais enfin, revenu à lui-même, il achève son accusation, reçoit l'absolution de ses péchés. Et avant de retourner dans sa patrie, il permit aux missionnaires de publier partout la grande miséricorde dont Marie avait usé à son égard. Ce trait d'histoire est tiré des opuscules de piété de saint Alphonse de Ligorie, qui nous montre, eh bien, je dirais, la grande bonté de Notre-Dame du Mont-Carmel qui reste, celle qui intervient à l'heure où tout semble perdu. Il faut conclure. Isaïe, au prophète 33, avait prophétisé « Au Carmel siégera la justice, et le fruit de la justice sera la paix, et le fruit de la paix, la quiétude et la sécurité pour toujours. Mon peuple habitera dans la beauté de la paix, dans les tabernacles assurés, dans un repos plein d'abondance. » Ces paroles de salut sont évidemment l'image du salut éternel que Dieu donne à ceux qui l'aiment. Et elles conviennent tout à fait pour conclure notre exposé. Notre-Dame du Mont-Carmel, nous l'avons vue, est la Vierge figurée et annoncée dans la nuée. Elle est celle qui sauve son ordre et elle est celle qui nous sauve par son scapulaire. Nous sommes à Lourdes. Remarquons que le 16 juillet 1858 est la dernière apparition de Lourdes. À un monde naturaliste, le bon Dieu envoie sa mère pour marquer ce monde par Lourdes. Et Lourdes reste marquée par le mystère de l'Immaculée Conception. Du 25 mars, je suis l'Immaculée Conception. Le 13 octobre 1917, Notre-Dame apparaît et termine le cycle des apparitions à Fatima. Elle apparaît comme Notre-Dame du Mont-Carmel. Le Père Marie-Dominique nous le disait hier, en ces trois phases de la dernière apparition, mystère joyeux, douloureux et glorieux. Elle apparaît donc à la fin de ses apparitions sous le signe de son Assomption, de sa gloire, après le miracle du soleil, sous le signe de Notre-Dame du Mont-Carmel. Et nous avons là comme un lien. 1858, l'Immaculée Conception. 1917, l'Assomption. Sous quel signe? Le signe de Notre-Dame du Mont-Carmel. Il y aurait à creuser, là j'ouvre une piste, sur ce symbole, comme une synthèse que Notre-Dame veut apporter, un message qu'elle veut apporter au monde. Elle est celle qui, à un monde qui refuse Dieu, apporte Jésus-Christ, apporte le salut. Elle est le salut à l'heure où tout semble perdu. Sœur Lucie, quand on lui demanda ce que voulait dire cette apparition du 13 octobre, elle répondit que tous les catholiques devraient porter le scapulaire comme étant une partie du message de Fatima. Le rosaire et le scapulaire, dit-elle, sont inséparables. Eh bien, puissions-nous répondre à cet appel de notre mère pour l'entendre, au dernier jour de notre vie, nous redire sa promesse « Voici le privilège que je te donne à toi et à tous les enfants du Carmel. Quiconque meurt revêtu de cet habit sera sauvé. Ainsi soit-il. »